Bien, donc là, je vous ai mis l'image d'un article qui avait pour objectif de replacer les différents corps, on va dire, au niveau de notre corps humain, entre guillemets, hein, c'est-à-dire de retrouver les six premiers chakras avec les trois fameux moteurs et de mettre des noms qui sont utilisés régulièrement, comme le corps atmique ou le corps bouddhique, enfin bref. Donc ici, je vous ai mis donc le petit correctif que j'ai apporté plus tard dans un autre article où, bah, quand on parle du corps atmique, c'est le corps christique par exemple, ou que quand nous parlons du corps d'être-té, nous parlons en fait du corps de gloire ou du corps de lumière. Donc tout ça, ce sont des mots, des vocabulaires différents, mais on parle exactement de la même chose. Donc il y avait une question primordiale qui disait, ben oui, mais Laurent, si tu mets le corps émotionnel au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau du cœur, au niveau du truc, alors comment ça se fait que dans un autre article, tu l'as mis ici, entre le corps mental et le corps énergétique? Eh bien, la réponse est donc dans l'article, hein, et vous la connaissez, c'est que tout simplement, comme nous sommes sous le voile de l'oubli, eh bien, ce corps émotionnel, forcément, va venir s'incruster entre les deux autres afin de pouvoir y mettre son mot. En clair, les questions qui sont posées ce soir par Lilou et par Yann vont concerner principalement ce fameux moteur, enfin, ce fameux corps émotionnel, et vous allez comprendre que, il a sa, comment on dit, sa parole à dire, on va dire, hein, son mot à dire. Alors, si j'ai des pertes de mémoire, en fait, de mots et de vocabulaire, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est l'époque. Alors, une question de Lilou. En ce moment, je sens que le corps émotionnel n'est pas stable. Il remonte les larmes que je n'ai pas pleurées lors du décès de ma mère, par exemple. Le mental, lui, veut faire l'inverse et répond à l'émotionnel en disant « Arrête de faire Caliméro ». Alors, on laisse couler ou on refoule. Donc ça, c'est la première question. Donc, eh bien, on laisse couler. On ne refoule rien. C'est-à-dire que quand votre âme, c'est-à-dire quand l'énergie émotionnelle qui est exprimée, je vous rappelle qu'ici, votre corps émotionnel, votre âme ici, c'est votre enfant, hein, on parle du corps de l'âme, c'est votre enfant intérieur, eh bien, cet enfant intérieur, quand il pleure, il pleure. Et donc, vous imaginez que quand il y a un enfant quelque part, eh bien, si à chaque fois il sort une larme, vous le baffez bah, il la ferme, quoi, eh bien, c'est pas la meilleure chose que vous puissiez faire et vous n'allez pas lui rendre service du tout. En clair, eh bien, un enfant, il faut l'écouter. Donc, quand vous avez des émotions qui vous viennent, eh bien, il faut absolument l'écouter. Donc, vous laissez couler. Et puis, si ça veut couler, alors bien sûr, quand il y a des larmes, bah, il y a des larmes, hein. Donc, ça coule. Donc, on peut dire que c'est un processus d'écoute, tout simplement, de purification. Donc, à chaque fois que vous pleurez, vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas besoin de savoir pourquoi, sachez simplement que c'est quelque chose qui est en train de se laver et de sortir. Je rappelle que beaucoup de gens, bon, n'ont peut-être pas lu l'article sur les larmes. Les larmes, c'est une condensation, rappelez-vous que ce sont des émotions, l'eau. L'eau, c'est l'émotion. Donc, tout ce qui est émotion, bah, quand vous regardez votre corps, bah, il y a quand même un paquet de flotte. Donc, nous sommes un paquet d'émotions et c'est pour ça que c'est le premier qui vient en fait gérer un petit peu notre vie et que nous parlons toujours en termes d'âme. Donc, l'âme et on va dire les larmes, c'est la même chose déjà. Donc, quand ça veut sortir, ça veut dire qu'il y a une surtension. Hein, c'est-à-dire qu'entre ces différents corps, hein, eh bien, il y a des surtensions entre le corps mental et le corps émotionnel, et bien sûr les autres corps. Donc quand je prends par exemple ici le corps spirituel, si vous êtes en contact par exemple grâce à un poème ou vous êtes dans une église ou n'importe quoi ou dans la nature, ce que vous voulez, et que vous ressentez vraiment quelque chose de profond par rapport à ça, eh bien vous allez avoir les larmes qui vont automatiquement sortir. Vous ne savez pas pourquoi, mais il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. C'est-à-dire que vous avez refait une connexion avec votre divinité d'une certaine manière. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, eh bien, si vous avez quelque chose qui vous arrive de votre corps mental, c'est-à-dire quelque chose dans le style regret, parce que bah voilà, j'ai pas pleuré quand ma mère elle est décédée, c'est pas normal, tout, enfin bon, il y a un truc, une culpabilité, enfin quelque chose qui peut venir dans l'affaire, eh bien, tôt ou tard, de toute façon, cet enfant intérieur, ce corps émotionnel devra se libérer. Donc, il se libérera. Donc, si vous chialez, il ne faut surtout pas retenir. Parce que sinon, ça fait dans l'image d'un barrage hydraulique. À chaque fois que vous refoulez, bah, qui dit refouler, ça veut dire que ça va dans un réservoir. Et tôt ou tard, ce réservoir se videra. Et souvent, il se vide au moment où on s'y attend, bien sûr, le moins, et toujours dans des situations qu'il faut absolument pas que ça se passe. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de laisser couler. Donc, vous sortez les serpillières, enfin, tout ce que vous voulez, mais vous laissez pisser, comme on dit. Et puis, il faut simplement regarder, parce que le regarder faire, hein, vous savez, comme vous regardez un fleuve couler, vous le regardez, vous n'avez pas à dire « oui, mais je suis le fleuve ». Non, c'est une partie de vous, en vous, qui s'exprime. Donc, vous le laissez couler, hein, vous ne jugez pas, et vous n'avez pas besoin de comprendre pourquoi vous avez des larmes. Hein, je rappelle que cette fabrication de larmes est faite grâce à la surtension. C'est une évacuation d'énergie entre deux corps. Donc, je vous avais parlé des différents, vous savez, des différentes poupées russes, par exemple, ou bien nos différents corps s'imbriquent les uns dans les autres. Et comme ils s'imbriquent, dès qu'il y en a un qui prend un petit peu plus d'espace que d'habitude, ou comme dirait l'autre, il a comme une bosse, et bien il va venir toucher l'autre corps. Et à partir de ce moment-là, bah, ça va faire disjoncter le système. Et pour que le système se remette en place correctement, eh bien, cette surcharge, cette surtension va s'exprimer par des larmes. Hein, c'est une condensation de l'énergie qui va s'exprimer pour partir dehors. Donc, vous pouvez avoir des larmes de souffrance, hein, vous pouvez avoir des larmes aussi de douleur. Alors, je rappelle que les larmes de souffrance, ça va être quelque chose qui va être en rapport avec votre corps mental. Hein, parce que c'est votre mental qui dit « oh là 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 là, moi je souffre ». D'accord ? Alors que quand vous avez une douleur physique, c'est votre corps physique qui exprime son malaise. À partir de ce moment-là, vous allez pleurer. Donc on voit qu'on peut pleurer de douleur, on peut pleurer de souffrance, mais aussi on peut pleurer de joie. Donc c'est toujours une surtension qui est dégagée. Donc première réponse à Lilou, on ne refoule jamais. Fluidité, comme on dit, hein, la 4D, c'est fluidité, vibration. Donc quand il y a un son qui vient, bah, il vous traverse et vous le laissez traverser. Mais vous n'êtes pas ce son. Vous n'êtes pas aussi votre âme. Hein, c'est aussi ça ce que je veux dire. Le temps, alors quand je comprends tout de suite, quand les gens vont dire « ouais, mais je ne suis pas mon âme, ça veut dire quoi ça ?» Ben non, ça c'est l'appartenance de l'ego. Ça s'appelle du cœur-ego. Hein. Le cœur-ego, c'est croire que notre âme, c'est nous. Votre corps n'est pas vous. Vous habitez un corps. Votre âme, c'est l'habitante, entre guillemets, de votre corps. Mais vous n'êtes pas l'âme. Ça, c'est l'appropriation 3D, la vision 3D. Hein, et je vais répondre un petit peu plus loin à la deuxième, enfin la troisième question, on va dire, de Lilou, hein, par rapport à ça. Donc d'abord, la seconde question, c'est le temps de lavage dans la machine à laver va-t-il encore durer longtemps? Eh bien, il va durer aussi longtemps que nécessaire, parce que quand vous mettez un linge dans une machine à laver, vous n'aimez pas, une fois que le programme est terminé, que le linge soit toujours aussi crade. Donc la machine à laver va tourner aussi longtemps que nécessaire afin que le linge soit lavé. Or, vu, je dirais, la crasse et surtout la profondeur à laquelle elle s'est incrustée en nous, eh bien, elle va durer encore assez longtemps. Alors, dans les prochains articles que j'ai écrits, eh bien, je vous en ai parlé déjà hier, dans l'article d'hier, nous allons non seulement avoir un nettoyage au niveau biologique, mais un nettoyage supplémentaire au niveau atomique. En clair, on nous a mis un détergent costaud. Hein. C'était avant, il y avait une petite lessive. Alors, on s'attendait toujours à avoir un petit coup d'adoucisseur pour dire, bon, faut quand même faire attention un peu au linge. Mais là, on a rajouté quelque chose d'assez, on va dire, corrosif pour aller chercher le plus loin possible dans les fibres, on va dire. Donc, à l'intérieur de nous, que ce soit quand je parle de fibres, on peut penser cerveau, on peut penser neurones, on peut penser système nerveux, mais on peut penser tout le système énergétique, etc. C'est-à-dire que là où il y a une crasse, elle va aller être cherchée. Donc, j'en reparlerai plus longuement dans les articles à venir. Donc, finalement, toujours ce que dit Lilou, donc finalement, l'expression « nos états d'âme » qui parle de nos émotions en lien avec notre âme est correcte. Oui. Pourquoi en avons-nous fait quelque chose de religieux? Eh bien, ça, c'était tout simplement la manœuvre de l'ombre, qui vous dit qu'il faut sauver votre âme. Donc, si vous avez compris que vous ne pouvez pas sauver votre âme, parce que votre âme, ce n'est pas vous, d'abord, on est une particule d'esprit, donc un esprit. Et un esprit, c'est totalement immortel au niveau biologique, hein, puisque l'esprit vit au niveau atomique, voire, quand on parle du grand esprit, au niveau, on va dire, des quarks. Résultat concret, ça ne peut pas mourir. Est-ce que vous avez vu, vous, une matière mourir? Ça n'existe pas. Un atome ne meurt pas, il est éternel. Alors bien sûr, on peut le casser par l'énergie nucléaire. On le casse. Bon, de un, on en fera deux, ou plusieurs morceaux. Mais ça, c'est la connerie humaine. Parce que personne dans l'univers s'amuserait à faire ça. Donc c'est pas parce qu'on fait ces conneries-là que ça veut dire que c'est une généralité dans la création. Alors, ce que ça veut dire, que la religion, et j'espère que vous l'avez compris, que vous allez le comprendre à force que je le répète, est une manœuvre d'emprisonnement pour nous couper de nous-mêmes. Et donc la religion appartient vraiment, on va dire, au cœur égo. En effet, elle fait bien appel à votre cœur, c'est-à-dire à cette partie vibratoire où on parle de l'âme. On est bien d'accord. Et si vous regardez bien, vous avez le corps spirituel qui est juste là. Le corps spirituel, c'est quoi? C'est l'ego, le mental ego qui est là, qui projette la divinité. Il projette la divinité comme il voudrait la voir. Donc, si vous êtes de telle religion, vous allez dire « Dieu, il est comme ça ». Si vous êtes d'une autre religion, vous direz « Dieu, il est comme ci ». Et le résultat, quand un religieux n'est pas d'accord avec un autre religieux, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tapent dessus pour dire « Non, non, moi j'ai raison ». Et si vous regardez bien, les fameuses religions révélées, principales, on va dire, hein, je parle en termes de religion, eh bien, sont le catholicisme, l'islam, et c'est quoi le troisième déjà? Le judaïsme. Voilà. Ben, si vous regardez ces trois-là, ils racontent tous la même chose. Alors, d'abord, on a eu le judaïsme. Donc, le judaïsme, c'est ce qu'on appelle, nous, l'Ancien Testament, en tant que catholique, parce que le Nouveau Testament, ça s'appelle le catholicisme. C'est pour ça qu'on parle généralement des religions judéo-chrétiennes. Hein? Donc, comme les Juifs n'ont pas reconnu, on va dire, Jésus comme prophète, ils disent, nous, on s'arrête à Moïse et point barre. Donc, on peut dire que l'ancêtre de la religion chrétienne, c'est la religion juive. Mais si vous regardez bien, 600 ans plus tard, après Jésus, ben, il y a Mahomet, enfin 500 ans, ou, enfin bon, à peu près dans ces eaux-là, eh bien Mahomet il est venu, et qu'est-ce qu'il a fait en écrivant le Coran? Eh bien il a réécrit l'Ancien Testament, et puis ben, aussi le Nouveau. En clair, eh bien, ce sont trois frangins, on va dire, si on pourrait presque dire que bah, grand-père, c'est la religion juive, que papa, bah, c'est la religion catholique, et puis que le gamin, c'est la religion islamique. Résultat, ils parlent tous, effectivement, de la même chose. Simplement, regardez combien de gens se sont étripés entre ces trois religions. Hein? Donc, on part d'une même chose. Les prophètes parlent du même truc et on s'étripe. Donc là, c'est là qu'on voit le bordel apporté par un corps spirituel qui dit « Mais moi, je suis au contact de l'âme. » Donc les religions, les principales religions connues en ce monde, hein, qui sont les trois que je vous ai citées là, eh bien, s'ils n'étaient pas là, on serait peut-être moins dans la merde. Hein? Parce que si vous regardez les Amérindiens, vous regardez les bouddhistes, ce n'est pas une religion, c'est un enseignement, c'est une philosophie de vie. Hein, mais ce n'est pas une religion. Donc le résultat, si vous regardez comment vivent les Amérindiens, bah aussi c'est une philosophie. Donc le reste de la planète vit avec des philosophies, et il n'y a qu'en Europe qu'on se tape dessus. Et qu'on se dise, non, non, Jérusalem, c'est la capitale des chrétiens, c'est aussi la capitale des juifs. Et puis, ben, tiens, on peut dire que les islamistes se sont dit, non, on va quand même pas se mettre à Jérusalem, quoi qu'on a quand même planté la mosquée juste là où il y avait l'ancien temple. Histoire, on va dire, de faire chier, entre guillemets, on va dire, la religion juive. Hein, donc, les pauvres, ils ont qu'un pauvre mur, soi-disant, des lamentations. Hein. Donc, c'est pour dire que c'est des conneries tout ça. C'est des frères qui se tapent dessus pour simplement dire que l'un a plus raison que l'autre. Alors, pourquoi en a-t-on fait une chose religieuse, hein? Eh bien, c'est la chose principale, c'est qu'effectivement, quand un corps spirituel est en contact avec la partie divine que l'on va appeler l'âme, d'une certaine manière, hein, puisque vous avez l'âme, et puis après Dieu, c'est le stade au-dessus, hein, Dieu, il est là, hein, c'est l'esprit qui cause. Donc Dieu est immortel, omniprésent, omnipotent, enfin tout ce que vous voulez, et puis après il y a une pauvre âme qui va, elle, gérer sa vie comme elle peut, et bah forcément, comme nous on fait que des conneries avec notre corps mental et notre corps spirituel, d'après vous c'est qui casque? Eh bien, c'est notre corps émotionnel. En clair, nous sommes des tas de fumée émotionnel. Tout ça dû, bien sûr, à des noirceurs du corps spirituel et du corps mental, principalement. Voilà, donc pourquoi en a-t-on fait une religion, hein, pourquoi quelque chose de religieux? Eh bien, tout simplement, c'est pour l'emprisonnement. Hein. Donc là, on est ce qu'on appelle dans le cœur égo. Hein. Je vous rappelle que l'ego, c'est cette paroi ici, hein, cette espèce d'œuf, hein, ça, c'est l'ego. Donc vous avez le mental égo et vous avez le cœur égo. Donc la religion, hein, qui est donc, je dirais, une utilisation du corps spirituel, mais qui a pollué, entre guillemets, le corps émotionnel. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer. Donc il y a un très très vieux problème avec mon corps émotionnel que j'aimerais enfin résoudre, comprendre, sentir, accepter. Une vétille selon moi, mais ce n'est qu'un jugement qui rend en moi une partie tellement furieuse, torturée, etc., que je suis malade du foie ce matin. En clair, eh bien ici, c'est qu'on voit que quand le corps émotionnel, comme dirait l'autre, fait des siennes, hein, je vous rappelle qu'ici on a comme un aimant, hein, c'est-à-dire que quand le corps mental, donc spirituel et tout le bordel, hein, avec, associé au corps des désirs ici, se met à tourner, automatiquement le corps émotionnel, lui, va se mettre à tourner à la folie. Et donc forcément, comme il va se tourner à la folie, eh bien, il va entraîner des dommages au niveau de notre corps énergétique. En clair, ça va être une tempête. Donc vous savez que le côté magnétique, c'est le côté vibratoire, c'est le côté féminin, hein, qui va forcément se répercuter sur les murs. Comme dirait l'autre, à force d'hurler dans la piaule, il y a le papier peint qui va décoller. Hein, et la moquette brûlée, comme vous voulez. Donc ici, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est torturé, quand on est, comme le dit Yann, furieuse, etc., et malade, hein, du foie, je rappelle que le foie, vous savez, c'est un organe qui est là pour filtrer, enfin purifier d'une certaine manière, parce que les reins sont là pour filtrer le sang, mais le foie est le siège de l'âme en tant que telle, puisque c'est là que se situent toutes les réactions chimiques qui vont faire que votre sang, hein, je rappelle que votre âme, c'est votre sang, ce qui anime, eh bien, c'est lui qui va réguler toute l'affaire. Résultat, et quand vous sentez mal, d'une certaine manière, par exemple au niveau du corps mental, il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous êtes frustré. Hein. Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez boire de l'alcool. Donc, quand vous buvez de l'alcool, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ça va vous détruire les neurones, donc corps mental, hein, et ça va vous esquinter le foie. Ça s'appelle une cirrhose, tout simplement. Donc, l'alcool a, on va dire, trois conséquences de base. La première, c'est qu'il vous rend le, ça tue les neurones. Donc vous allez avoir du gruyère là-haut. La deuxième, c'est que vous allez carrément, on va dire, miner le siège où se situe l'âme en tant que telle. Alors on dit l'âme, oui, c'est vibrationnel, c'est dans le cœur, etc. On est bien d'accord. Mais physiquement parlant, l'organe dans lequel l'âme agit est le foie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire une différence entre là où on ressent les choses et là où elles sont, effectivement. Hein? Par exemple, je prends l'exemple du corps énergétique ici, et premier chakra et deuxième chakra. Eh bien, comme on dit, la sexualité, on dit qu'elle est au deuxième chakra, puisque c'est une vibration. Elle est là pour reproduire la vie. Mais les outils, vous les avez au premier chakra. Donc, concrètement, eh bien, au niveau de l'âme, c'est la même chose. Vous avez l'âme qui vibratoirement est au niveau du cœur, mais vous avez sa situation physique, géographique, dans le foie. Et le foie, il se situe juste en dessous le diaphragme. Et je vous rappelle que le diaphragme, c'est le voile de l'oubli, le premier voile de l'oubli. Donc, quand vous avez des blocages, on va dire, dits émotionnels, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un blocage émotionnel, automatiquement, ça va bloquer le diaphragme, qui lui, en contrepartie, va bloquer la respiration, qui, en conséquence, amènera moins d'énergie au corps mental. Donc, plus vous êtes bloqué émotionnellement, et plus vous devenez, excusez-moi, quelqu'un de bloqué mentalement. Il est évident qu'à ce moment-là, eh bien, c'est une spirale hein, qui se fait. Donc, plus vous êtes coincé, et plus votre corps mental va être rigide. Et plus votre corps mental va être rigide, plus automatiquement votre corps émotionnel va en subir les conséquences, qui obligatoirement entraînera un corps énergétique, on va dire, complètement fissuré, qui va, bien sûr, apporter, on va dire, la vieillesse au niveau du corps physique, et donc finalement la mort. Vous voyez, c'est très simple quand on regarde les choses. C'est de la mécanique basique, on va dire. Mais une fois qu'on a bien compris ça, tout va bien. Donc, on va voir que le gros problème, il est là, le corps mental. Quand vous ferez la paix dans votre corps mental, automatiquement, votre corps émotionnel va se calmer. Alors, peut-être pas de suite, mais se calmera. Alors, votre corps mental, il va falloir aussi, comme dirait l'autre, d'une certaine manière, qu'il arrête, entre guillemets, sa musique concernant le corps spirituel. C'est-à-dire de faire la mayonnaise de la projection 3D, que je vais appeler donc le cœur ego. Hein? Donc un corps spirituel, quand quelqu'un me dit « moi je suis spirituel », je veux dire que c'est un compliment qui se fait. Hein? Par définition, quelqu'un qui se dit spirituel, c'est forcément quelqu'un qui a un ego et qui se voit parce qu'il pense qu'il est dans la vibration, qu'il est spirituel. Et généralement, vous avez deux types de spirituels. Vous avez le spirituel New Age qui, lui, se dit « je suis dans la vibration, je m'abandonne à la vibration » et même mieux pour accélérer le phénomène, « je vais fumer un joint, ça va aider ». Et puis, vous avez ceux qui se disent dans le spirituel et qui vont étudier les écritures. Et là, vous savez à quoi ça mène. Parce que plus on reste dans l'intellectuel, et plus forcément le corps spirituel va être aussi rigide, hein, et qui fait que ça va amener un corps émotionnel qui va devenir, on va dire, malheureusement, très esquinté. Alors voilà, donc ça c'était pour répondre à la question de Yann, sa première question. Hein. Donc, quand on a un problème de foie, généralement c'est que vous avez un problème de circulation d'énergie et cette circulation d'énergie est due bien sûr à un certain nombre d'émotions, on va dire refoulées, et que quelque part votre âme il n'aime pas. Hein? Donc ici, je ne vais pas continuer par rapport à ce que dit Yann, tout le monde a profité de moi depuis toujours, je ne peux voir quelqu'un souffrir. Résultat, je suis toujours relégué au calende grec quand on doit me rembourser de l'argent prêté. On ne me le rend jamais, cause, circonstance, etc., etc., etc. Je vis ça de façon récurrente et je réponds à ça que j'en ai pas besoin. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai, mais ça craque ma réponse, ça craque et je suis malade. Car je me mens, et si ça compte, et j'en ai honte, me sentant 3D et me faisant souffrir, et que ça n'en vaut pas la peine. Le « on s'en fout » ne fait que mettre du feu dans lui. Bref, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que on refoule au niveau du corps émotionnel, à chaque fois, l'eau dans le barrage augmente. Donc, c'est sûr que quand vous voyez quelqu'un qui a des seaux d'eau, hein, c'est-à-dire qui est en souffrance, hein, qui a plein de larmes, eh bien, ça vous fait souffrir. Pourquoi ? Parce que inconsciemment, vous savez que cet être est en train de remplir son propre barrage. Et vous savez, par définition, vibratoirement, que l'air de la 4D, c'est la fluidité. Or, est-ce que l'eau est fluide quand elle est dans un barrage ? Elle n'est pas fluide du tout. Elle est statique. Et ça, ça fout les boules. Donc, forcément, une eau qui est statique, eh bien, on dit, mais non, moi, j'ai pas besoin de pleurer, vous savez, non, moi, je stocke, j'en ai pas besoin, d'une certaine manière, mais inconsciemment, on se dit, mais si les barrages hydrauliques, ça devait exister, pourquoi ils n'étaient pas là avant qu'on les fasse ? Parce que de l'eau qui dort, une émotion qui dort, une émotion qui est, on va dire, refoulée, hein, qui est là, qui est entassée, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait qu'il y a beaucoup de vases au fond du lac, et que, au fond du lac ou du barrage, c'est-à-dire que obligatoirement, tout, ben, vous allez du côté d'EDF, vous saurez que tout barrage doit être régulièrement vidé afin qu'on ôte la boue qui est au fond, parce que ça dépose lourd. Ben, vous imaginez que tous les courants d'eau qui vous arrivent, toutes les larmes que vous devriez verser, qui devraient se déverser dans la vallée, eh bien, et retourner donc à la mer, eh bien, ce qu'il fait, ben, il est arrêté par le mur, et toute la mer qui trimballe avec lui, ben, ça va déposer au fond. Donc, un barrage va s'enliser. Après, ben, comme dirait l'autre, quand on voudra utiliser l'eau pour, on va dire, fabriquer l'électricité, eh bien, on n'aura plus beaucoup d'eau, mais beaucoup de vases. Et donc, c'est en cela que, quand on voit quelqu'un souffrir, eh bien, automatiquement, ça nous rappelle nos tonnes de vases que nous avons parce que nous avons refoulé. Alors, dites-moi pas qu'un préhumain n'a pas refoulé ses émotions, parce que le but propre de toutes les institutions et de toutes les religions, c'est de refouler ce que vous êtes. Combien de fois vous avez eu envie de dire à une fille « je t'aime » ou « j'ai envie de t'embrasser » le problème, vous ne l'avez pas fait, parce que tout simplement, vous aviez votre femme qui vous tenait le bras, quoi. Non, vous ne l'avez pas fait, réciproquement, hein, au niveau de la femme. Vous aviez envie de faire quelque chose, mais vous aviez un mec qui vous tenait le bras, vous ne l'avez pas fait. Ben, tout simplement, cette autre personne, ce n'était pas pour des raisons, on va dire, de désir ou quoi que ce soit, c'était tout simplement, par exemple, votre fils ou votre fille ou votre père ou votre mère, juste dans une vie antérieure. Donc, vous l'avez ressenti au niveau du cœur, mais vous n'êtes pas donné la permission de pouvoir rentrer en contact, de faire le contact avec la personne, hein, sans pour cela penser automatiquement tous les trucs de 3D. Donc on sait que la 3D, par définition, nous empêche littéralement d'être nous-mêmes, d'être transparents. Et c'est pour ça que nous en sommes arrivés à être dans le paraître, c'est-à-dire à côté de l'être. Donc on dit « regarde comme mon barrage il est beau, regarde comme il est puissant, regarde les putains de turbines ». Mais dans la réalité, la meilleure de toutes les turbines, c'est quand il n'y a aucun barrage. Parce que là, vous êtes ce que vous êtes. Et vous n'avez rien à cacher. Et l'avantage, eh bien, vous n'avez plus la vase du fond qu'il y a dans le barrage. Parce que quand l'eau coule dans la rivière, on va dire, dans le torrent de montagne, il n'y a pas de vase au fond. Hein? Donc c'est la différence. Donc il y en a qui vont se dire « je suis fort, je suis un gros barrage, je retiens, je maîtrise, je contrôle » jusqu'au jour où il y a une fissure, ou qu'il y a un pétard, ou n'importe quoi, et là ça va être la vase qui se défoule correctement, enfin je veux dire complètement, et qui va emmener tout sur son passage. Donc c'est évident que plus on refoule une émotion, et plus vous avez, comme dire l'autre, de la dynamite entre les cuisses. Pas des bâtons de dynamite, enfin ce que vous voulez, enfin bref, ça va être malsain. Et donc je continue ce que dit Yann, et sans cette importance selon moi, mental jugement, mais quand je me vois, je me dis que je ne peux continuer à me mentir. Alors comment trouver la paix? Comment équilibrer mes énergies? Comment intégrer cette partie qui souffre si vous saviez combien avec des répercussions incroyables? Eh bien c'est simple, il faut ouvrir le barrage, c'est-à-dire accepter de montrer ce que l'on est, et qu'à chaque fois que des émotions passent, eh bien, de les regarder pour ce qu'elles sont et de les laisser continuer leur chemin. Voilà. Donc, la réponse, c'est en cela. Et donc, le fameux, comme tu disais, le « on s'en fout ne fait que de mettre du feu sur l'huile », eh bien, ou l'huile sur le feu, l'expression, en fait, quand l'eau coule naturellement, bien sûr, elle est chargée de particules, de vases, puisqu'il y a une érosion, on est d'accord. Mais ce n'est pas statique, c'est dynamique. C'est comme votre voiture. Automatiquement, elle va fabriquer, on va dire, du gaz carbonique et du monoxyde de carbone. Et elle a un pot d'échappement, oui. Mais si vous restez dans votre garage avec le moteur allumé et vous ne bougez pas votre cul, c'est sûr que vous allez avoir des ennuis de santé. Par contre, si vous roulez sur la route, vous êtes en mouvement, eh bien, les gaz seront derrière vous et vous continuerez. Et la nature s'occupera, on va dire, des gaz. Donc là, il faut comprendre que dans cet étagement, le corps émotionnel est primordial. Je vous rappelle que ici, nous avons affaire à des éléments qui sont masculins. Alors, ici, pareil, c'est masculin, c'est la matière. Excusez-moi. Alors que là, on a le droit à du féminin, à une vibration. Donc, il est normal que c'est ça qui fasse fonctionner les deux autres. Hein. Vous avez un rotor, un stator, mais il y a l'électricité, enfin je veux dire, il y a le champ magnétique qui vont créer cette électricité entre ça et ça, et qui va faire que ça va tourner. Donc, votre corps émotionnel, c'est, je rappelle, votre champ magnétique. S'il n'y a pas de magnétisme, ça ne marchera jamais. Le côté masculin ne pourra jamais fonctionner. Tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à cette première image et par rapport à ce qu'il faut faire. Ne refoulez pas, ne conservez pas pour vous vos émotions. Exprimez-les. Laissez-vous traverser par elles, mais surtout ne vous identifiez pas à elles. Je rappelle que votre âme, c'est votre enfant intérieur. Vous n'êtes pas votre enfant intérieur. Hein, c'est comme à l'image des enfants qu'on a dans la vie courante. Vous êtes le papa, vous êtes la maman, on est d'accord. Vous avez fait un gosse, super, c'est génial. Mais un, il ne vous appartient pas, et deux, il a sa propre vie. Donc de toute façon, tôt ou tard, malgré tout l'amour que vous avez, il partira. Parce que s'il ne se sépare pas, et il ne se sépare pas de vous, on va l'appeler Tanguy. Hein, vous connaissez le film Tanguy. Donc non, il va prendre son envol. Mais ce n'est pas vous. Donc tout ce qu'il exprime à travers votre corps émotionnel, tout ce que votre âme exprime à travers votre corps émotionnel, n'est tout simplement que ses désirs, ce qu'il désire vivre. Or, vous savez comme moi, les gamins prennent des mauvaises habitudes régulièrement. Donc, quand des fois ils pignent pour quelque chose, eh bien, il faut y mettre un petit peu de fermeté. Voilà pourquoi, quand un individu, enfin un parent, a ce que j'appelle l'amour con, c'est-à-dire un amour inconditionnel mais sans aucune jugeote, eh bien, qu'est-ce qu'il fabrique? Il fabrique un être qui croit que tout lui est permis et qu'on doit répondre à toutes ses demandes. Pensez-vous qu'il sera prêt, une fois que, quand il va être sorti du nid, qu'il sera prêt à affronter ce qu'il est? Pas du tout. Ça sera un mou. Donc c'est pour ça que l'amour, le véritable, est toujours associé à une fermeté, à un côté masculin. Donc la sagesse, c'est tout simplement un amour sage. Et pas un amour con. Voilà pourquoi dans tous les couples, quand il y a une maman, on est d'accord, et puis il y a un papa, on est d'accord. Mais quand il n'y a pas de papa, bah les mamans, elles essayent d'être le papa. Et qu'est-ce que ça donne en règle générale? Eh bien, elles se font bouffer par leur gamin. Alors si leur gamin est un mec, eh bien, ils vont se faire bouffer. Alors ils disent, oui, j'ai donné ma vie, j'ai vécu pendant 10 ans, 15 ans, toute seule, à l'élever parce que c'est mon fils, etc. Et donc, en fait, la maman, elle a essayé de s'équilibrer avec le masculin de son fils. Mais son fils va dire, écoute maman, c'est vachement bien, mais tu ne m'as pas donné aussi ce que j'avais besoin, c'est de temps en temps une baffe. Mais une baffe, une vraie. Celle que papa aurait dû me donner. Parce que papa, lui, comme il est un peu moins dans la vibration, il est un peu plus sec. Donc voilà, donc les histoires des mamans qui vivent toutes seules avec leur fils, j'en ai rencontré beaucoup. C'est à terme catastrophique, généralement. Parce qu'après, bah, l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de trouver une autre maman. C'est-à-dire, il va se marier avec une autre nana et il va lui faire subir tout ce qu'il faisait subir à sa mère. En clair, bah, il va cogner, il va taper, il va... Enfin bref, ça ne sera pas le gentleman dont la nana avait rêvé. Bon voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Et on va passer à la deuxième vidéo.